De visu,
l'art contemporain,
Lise Hott.
Bonjour à toutes et à tous, la couleur en pleine forme, tel est le thème du De visu du jour. J'y parlerai des expositions de peinture de Yann Dumauget à la Salle Bagoué à Montpellier jusqu'au 2 décembre et de Didier Demauzé à Montpellier également à la Galerie Alma jusqu'au 20 octobre. Et j'aborderai enfin les photographies de la japonaise Mami Kiyoshi à la Galerie Annie Gabrielli du 6 octobre au 1er décembre. L'événement Montpellier-Rhin du 14 au 16 septembre dernier a été sans conteste le salon du dessin contemporain Drawing Room 9e édition à la Panacée. 16 solo shows présentés par 16 galeries, dont 6 Montpellier-Rhin et 7 parisiennes. Une participation des galeries de la capitale légèrement en hausse, et ce au détriment d'une extension de l'événement sur le territoire régional. C'est ainsi que la galerie du lieu commun à Toulouse n'était cette année pas présente. Contrairement à l'an passé, Montpellier reprendrait-il la vieille habitude qui consiste à se penser selon la verticale de l'axe Montpellier-Paris ? Pas impossible. On en a ressenti l'influence dans la représentation très clean et très soignée des galeries, un petit côté chic qui a aussi sa froideur. Les œuvres s'y faisant plus figuratives que jamais, des œuvres très colorées pour la plupart, avec des intentions qui oscillent entre l'onirique, l'affectif et le politique. À cette occasion, je mentionnerai spécialement les travaux de Philippe Markiewicz proposés par la galerie Apertot, de Soufiane Ababri par Chantier Boîte Noire, attrapez vos carnets, de Gaël Maury par Clémence Boissanté, de Bianca Argimon par Iconoscope, d'Odile Marek par la galerie parisienne Bernard Jordan, ainsi que de Jeanne Suspligas par Under Construction Gallery à Paris également. Enfin aussi Benjamin Monti, proposé par la galerie de Liège Nadja Vilaine, ainsi que les dessins de Jérôme Souillot, sélectionnés par le Centre chorégraphique national et par Christian Rizzo, que l'on peut voir à la Chambre d'écho au Centre chorégraphique national à Montpellier jusqu'au 12 décembre. Léger bémol enfin pour les résiduels, titre de l'exposition de trois artistes très minimalistes présentés par la Fondation Lafayette Anticipation. À noter qu'à l'occasion de ce Drawing Room 9e édition, la bourse Jeune Création décernée par l'agence Tour et Sanchis Architecture a été attribuée à Delphine Fan, étudiante à l'École supérieure d'art et de design de Valence. L'axe Montpellier-Paris passe aussi par la vallée du Rhône. Drawing Room 2018, plonger le dessin dans la couleur. Trois galeries montpelliéraines s'y adonnent également à cœur joie en ce mois de septembre et pendant au moins le mois d'octobre. C'est la couleur en pleine forme, thème du De visu de ce jour. Ainsi, à l'espace Bagoué sur l'Esplanade, espace municipal dédié à l'art contemporain, Yann Dumauget, sous le titre « Avec de vrais morceaux de gens à l'intérieur », expose de grandes peintures hautes en couleur, graffitées par des Montpelliérains. Le propos qui s'est déroulé sur un an est censé exposer une vision de la ville. C'est aussi une exposition anniversaire qui remet sur le devant de la scène, 20 ans après son exposition au Carré Sainte-Anne, où il présentait 366 toiles, une pour chaque jour de l'année, son concept de peinture partagée. Né à Calais en 1970, Yann Dumauget se dit montpelliérain d'adoption, mais n'hésite pas à flirter avec les cultures du monde. On écoutera l'entretien qu'il m'a accordé le 18 septembre dernier. Au son, on entend des extraits de « I don't want this groove to ever end » du DJ londonien LTG Buchem. Bonjour Yann Dumogé.
Bonjour.
Alors on se retrouve à l'espace Bagué pour une exposition qui est quand même conséquente, qui comporte, c'est une exposition anniversaire,
hein, oui.
Puisqu'elle est en lien avec une exposition qui a eu lieu au Carré Sainte-Anne il y a 20 ans. Et où vous aviez déjà fait preuve de ce désir de faire de la peinture partagée,
hein,
qui est aussi le concept Yann Dumogé qui guide l'installation des peintures qui sont là et puis même leur fabrication.
Exactement. Donc déjà, oui, je suis content de fêter mes 20 ans. C'est la deuxième fois de ma vie, donc ça fait plaisir. Et effectivement, il y a une vingtaine d'années maintenant, peut-être un tout petit peu plus pour les débuts, j'ai eu l'idée de demander aux gens d'intervenir sur mes peintures. Au début, voilà, c'est parce que certaines personnes...
Alors, pour préciser un petit peu, il faut dire que là, on a combien de toiles ?
On a en fait 9 toiles grand format et ensuite, on a 24 toiles petit format, donc qui sont
qui
issues
sont
de la série
des 360... Hein,
oui, qui sont des peintures marouflées sur toile, qui sont issues de la série des 366 toiles pour l'an 2000.
Voilà, 366 toiles, je vais y arriver, pour l'an 2000, c'est ce que vous aviez montré au Carré Sainte-Anne.
C'est ça.
Hein, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même, on vous connaît pour des pratiques qui sont très politiques.
Oui, hein, oui.
Mais là, tout d'un coup, on est quand même dans une espèce de hommage rendu à la peinture.
Oui, oui, oui. Je reviens sur le terme politique dans le sens où je pense que voilà, la politique, bien sûr, a, on va dire dans le bon sens du terme, c'est un peu la vie de la cité. C'est essayer de voilà d'être citoyen. Donc effectivement, je suis un citoyen, on va dire. Enfin, engagé, c'est fort, mais disons qu'il aime bien exprimer ce qu'il pense, parce que j'estime que c'est bien. Mais là, effectivement, c'est une expo qui peut avoir une lecture politique dans le sens où, voilà, je mets en avant le partage, je mets en avant le vivre ensemble et certains aspects de la démocratie.
Vous avez d'ailleurs choisi des thèmes qui sont appropriables par tous, enfin, la rivière, le volcan,
c'est
thèmes de la nature quand même.
Le thème de la nature à laquelle je reviens, et c'est là où on revient justement au propos purement pictural, c'est que en fait, il y a une vingtaine d'années, j'étais fasciné, comme tous les gens de l'époque, de ma génération, par les débuts d'Internet, par ce cyberespace, par l'univers, tout ça. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Et là, pour cette exposition-là, j'avais envie de revenir à quelque chose de finalement très désuet, c'est-à-dire presque de la peinture de paysage. Et une peinture de paysage...
Des paysages mentaux,
voilà,
hein,
c'est
ou
ça.
Des paysages et cosmogoniques
c'est ça,
aussi.
Voilà, hein. C'est ça, c'est-à-dire une peinture de paysage, mais de paysage dans laquelle, en arrière-plan, il y aurait toutes ces problématiques qu'on connaît sur le climat, le monde qui change. Et du coup, c'est, je me suis mis dans la position, bon voilà, hein, c'est bien sûr, c'est un clin d'œil, mais d'une espèce de chaman, c'est-à-dire, vous savez, ces gens qui intercèdent et qui sont entre les dieux et finalement la terre.
Et l'humanité. Et
l'humanité.
Oui.
Et dans cette position-là, puisqu'on demande tout le temps aux artistes plein de choses, d'être à la fois, voilà, de donner du sens à la vie, de résoudre des problèmes politiques, de créer du lien social. Donc je me suis dit, voilà, moi je suis une espèce de chaman, mais un chaman qui regarde sa ville en premier.
Alors c'est un chaman qui a quand même, semble-t-il, beaucoup regardé les mythologies apparemment amérindiennes.
Oui,
non,
c'est ça, complètement. Hein, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé. Bon, moi je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc j'ai toujours aimé faire des petits clins d'œil, mais qui ne sont pas des clins d'œil prétentieux pour dire voilà, alors il y a ce clin d'œil, si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas cultivé, hein, loin de là. Mais effectivement, j'aime bien la culture
judéo-chrétienne,
j'aime
bien
la culture amérindienne, et aussi même que ce soit les aborigènes d'Australie, enfin il y a tout un
oui,
tas de...
Oui, on sent que c'est surtout ces références-là qui dominent, y compris dans le choix des couleurs.
Oui, 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 mais parce que ça, c'est mes couleurs, comme je disais, en fait les couleurs c'est quelque chose de très inconscient, c'est quelque chose, une vibration que vous avez en vous, et c'est un peu
C'est un peu comme la couleur de votre chemise.
Comme la couleur de ma chemise, moi j'aime les couleurs
jaune,
vives,
moutarde,
très gaie, etc. Et en même temps, c'est vrai que cet aspect, une fois de plus, chamanique, c'est surtout dans les cultures, on va dire, traditionnelles qu'on le retrouve encore. Et c'est vrai que voilà, c'est beaucoup l'Amérique du Sud, c'est beaucoup l'Océanie, c'est beaucoup ce genre de région, et beaucoup moins en Europe, parce que bon, il y a d'autres cultures qui sont passées par
oui,
là.
Oui, en même temps, ce sont des peintures qui sont le reflet d'une communauté. Quand
oui.
même, chacune,
oui,
hein,
c'est ça.
C'est pas l'artiste seul romantique.
Exactement.
Hein.
C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de lire en fait l'espèce de représentation de la ville que j'ai fait, à la fois par ces peintures de paysages un peu extrapolées au monde, et à la fois en fait par tout ce que j'ai mis dedans, à savoir les humains qui sont intervenus, puisque donc je vais repréciser que sur chaque peinture, donc il y a des centaines de Montpelliérains qui ont marqué un petit mot.
Alors il faut rappeler le dispositif, ça a duré pendant un an. Hein.
C'est ça, le dispositif, c'était j'ai peint une dizaine de grandes peintures, donc que j'ai promenées dans la ville pendant un an. Donc dans différents événements, ça pouvait être l'Assemblée Générale des Amis du Musée Fab, comme ça pouvait être une MJC dans un quartier populaire de Montpellier, comme ça pouvait être dans un festival de rock, enfin bon. Et là, je demandais aux gens d'intervenir avec des tout petits feutres. Et du coup, j'ai capté en fait cet instant présent, ce moment, cette énergie de plein de gens qui avaient des choses à dire, à montrer par rapport à leur vie, par rapport à cet instant qu'on était en train de partager. Et donc tout ça, multiplié par des milliers, puisque en gros il y a 1500 personnes qui sont intervenues à peu près, ça finit par dire quelque chose de la ville.
Visu sur FM+, une émission de Lise Haute consacrée aujourd'hui à la couleur en pleine forme. Nous écoutons l'entretien accordé par Yann Dumauget pour son exposition à la Salle Bagot à Montpellier jusqu'au 2 décembre, sous le titre « Avec de vrais morceaux de gens à l'intérieur », au son des extraits de la bande Opening du groupe français The Blaze. C'était de faire une représentation de la ville de Montpellier.
Oui, c'est ça. C'était un des axes de l'expo que je m'étais donné. C'était de dire, moi, je suis montpelliérain d'adoption. J'ai envie de parler aussi de ma ville, mais pas d'une manière trop téléphonée, mais on va dire à la fois à travers ses habitants et d'étendre ça à un point de vue plus général. Mais...
Mm-hmm, oui, donc en fait, ce sont des toiles mythologiques influencées par des cultures, je dirais, autres, différentes, dans lesquelles s'inscrivent les montpelliérains.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, les amener là-dedans,
c'est ça. C'est je suis allé vers eux et ils sont venus vers moi d'une certaine manière, ils sont venus dans mon travail, et c'est vrai que c'est exactement ça. Et moi, de mon côté, je suis parti, on va dire, du plus petit dénominateur commun, je suis parti aussi de mon atelier, et puis pour m'élargir à Montpellier, puis de m'élargir encore au monde, à l'univers.
Mais vous amenez les gens à partager le sens du monde que vous avez à cœur de défendre.
Oui,
quand même.
Parce que c'est assez, j'allais dire... Dit comme ça, on pourrait se dire, voilà, là, cet artiste, pour qui il se prend, mais c'est assez vrai dans le sens où, en fait, quand on demande aux gens d'écrire sur une peinture, ils savent que c'est un moment un petit peu singulier qu'ils vivent, parce que c'est la première fois, en général, qu'ils le font, puisque je suis, à ma connaissance, un des seuls à faire ça. Et du coup, ils ont à cœur d'essayer de laisser une trace qui soit quelque part quelque chose d'important qu'ils ont envie de dire. Et du coup, très vite, ça parle de philosophie. Alors, ça parle de
oui,
de
oui,
ce qu'ils
vous avez
vivent,
dû d'ailleurs un petit peu intervenir, parce qu'il fallait éviter des propos racistes, des
bien
propos
sûr,
homophobes,
bien sûr.
etc. Ça, ou même plus, d'autres voilà, propos voilà, plus radicaux encore.
C'est rare, franchement c'est très rare, mais j'en parlais parce que voilà, on me demandait les limites un peu de ce que pouvaient faire les gens. C'est assez rare, mais c'est vrai que, parce que, une fois de plus, les gens, ils ont envie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en général, ils sont très positifs quand ils ont envie de laisser quelque chose. Et c'est plus, voilà, il y a toujours, on va dire, je ne vais pas caricaturer, mais il y a toujours des ados rebelles ou des gens qui sont un peu dans la provoque et qui ont envie, voilà. Et là, clairement, voilà, moi, dans cette peinture-là, tout ce qui est marqué sur les peintures, j'ai envie de le défendre.
Mm-hmm.
C'est littéralement,
je
le.
Il y a des écritures en langues différentes.
Bien
hein.
sûr, oui, oui.
Il n'y a pas que du français, il y a de l'espagnol.
Puisque j'ai croisé des tas de gens.
Il y a de l'arabe, il y a
oui,
du perse, vous avez dit tout à l'heure.
Oui, complètement. Ouais. Je dirais, il y a au moins une dizaine ou quinzaine de langues différentes, hein, à commencer par voilà, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Et du coup, je le prends avec moi. C'est vrai que moi, quelque part, je voudrais. sans faire d'étymologie, mais je veux dire, comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Et moi, ma manière de comprendre le monde, c'est de le prendre un peu avec
alors,
moi.
Alors, ce n'est pas la première fois que vous faites ça, parce que vous avez commencé quand même en 2002. Vous vous êtes introduit subrepticement dans la Documenta de Cassel, oui. Et vous avez accroché des peintures dans les toilettes publiques en invitant les gens à y faire des graffitis.
Oui.
Hein, dans 11
oui,
toilettes, oui. Donc, de la
c'est
ville
ça.
De Cassel.
Voilà. Subrepticement, oui, mais j'avais quand même de pour être comme ça en Allemagne, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, il faut le dire. C'est ouais. Des gens assez cadrés, donc en fait, c'était, j'avais demandé l'autorisation au curateur, mais c'est, effectivement, c'était dans les toilettes des lieux d'expo pour la plupart des peintures. Et c'était assez rigolo parce qu'il y avait aussi ce clin d'œil à Duchamp, l'urinoir, et puis ce clin d'œil surtout au oui. Graffiti, où en général, hein, s'il y a bien un lieu où on fait des graffitis dans sa vie, c'est ou sur les bureaux d'écoliers ou dans les toilettes.
Oui.
Donc là, voilà, c'était,
sur ça.
C'était, je trouvais
2000,
que c'était bien vu,
voilà,
et puis
oui.
Même en termes de communication.
En 2008, il y a un travail qui s'intitule « Le chant des pistes ». C'est une errance qui dure jusqu'en 2010 et vous acheminez des messages écrits et dessinés
voilà.
Par des tiers
c'est
sur
ça.
Des morceaux de papier journal.
Exactement. Et là, du coup, c'est un moment où j'ai un peu lâché la peinture. C'est-à-dire que j'ai toujours, comme tous les artistes, un petit peu d'amour-haine, on va dire, pour la peinture. Et il y a des moments où on y revient, des moments où on s'en éloigne, des moments où on ne sait plus trop où on en est. Et du coup, en fait, c'est une période où je me suis dit, je vais garder ce côté interaction, ce côté message et rencontre avec les gens, parce que c'était un peu le cœur, finalement, de cette esthétique relationnelle. Et je vais laisser de côté la peinture, parce que j'arrivais plus à articuler les deux, en fait. Quelle peinture faire sur laquelle les gens interviennent c'est pas si évident que ça. Et du coup, je suis parti dans cette errance. Et c'est après où je me suis dit, oui, mais la peinture, j'y... C'était très personnel, je me suis dit tu éprouves de bons moments à peindre, s'il y a quelque chose qui te plaît là-dedans, donc continue.
Oui, en 2012, il y a eu aussi deux travaux, l'un intitulé En Grèce, l'un intitulé Superfouille et l'autre Le silence de la rue. Et là, vous faisiez des témoignages photos, parce
oui.
Que c'est là-dessus
oui.
Aussi qu'on vous a rencontré l'année dernière à la galerie oui. Annie Gabrielli, où il y avait des photos sur le Portugal,
oui.
Sur la ville de Grandola.
C'est ça, mais c'est vrai. Que en fait moi je suis je pense que le point de départ finalement de tout mon travail c'est la curiosité.
Visu sur FM+, une émission de Lise Hotte consacrée aujourd'hui à la couleur en pleine forme. Nous écoutons l'entretien accordé par Yann Dumoget pour son exposition à la Salle Bagot à Montpellier jusqu'au 2 décembre, sous le titre « Avec de vrais morceaux de gens à l'intérieur », au son des extraits de la bande Opening du groupe français The Blaze.
Tournant des années 2010, après ce voyage donc entre 2008 et 2010, quand je suis revenu, c'est là où j'ai complètement ouvert en fait ma pratique à d'autres médias. Donc,
et vous aviez le désir
photo.
Aussi quand même de rendre compte de l'essoufflement de la société
c'est ça,
de consommation.
C'est ça. Moi j'ai en fait
et des problèmes économiques.
C'est ça.
Qui les
quand, en 2008, quand la crise a éclaté, j'étais en plein dans mon voyage. Donc j'ai une vision assez globale puisque je faisais un tour du monde. J'ai bien vu dans différents pays comment ça se passait. Et du coup en fait. Ça a été un moment pour moi assez déstabilisant, bien sûr, parce qu'il y a des pays où c'était très dur, que ça soit dans tous les pays du genre l'Égypte ou tous les ce qu'on a appelé les printemps arabes, que ça soit en Grèce et dans certains pays d'Europe du Sud, que ça soit
ailleurs.
Le Portugal,
voilà.
Les gens, ils sont dans la misère pour certains. Donc ça m'a complètement déstabilisé et j'ai eu envie d'en rendre compte. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire des photos, à faire des vidéos, à écrire beaucoup de textes aussi. Qui avec ce travail donc sur la crise économique dont finalement mes peintures sont un peu le pendant positif, c'est-à-dire dans les peintures je retrouve ce côté
mais là vous êtes carrément provocateur quand même hein. Vous changez des dessins de billets de banque contre du vrai argent vous transformez des conteneurs poubelles en pochettes surprises pour des SDF il y a aussi dans paysages monétaires internationaux ou dans vitriol sur les centres d'impôts
billets,
voilà
des vrais billets.
Oui.
Non mais oui, bien sûr, non mais en fait ce que j'aime c'est J'allais dire, c'est vrai que moi je suis un enfant aussi de la communication, voilà, et du coup j'aime bien que mes projets, on puisse y entrer de manière, voilà, on va dire avec un œil plus averti, de manière plus complexe, mais qu'on puisse aussi en avoir une approche très provoque et très, voilà, donc là effectivement, emballer des containers poubelles et en faire des pochettes surprises pour SDF, bah, ça parle à tout le monde, tout de suite on se dit ah tiens bah oui voilà
un problème c'est ça à
et,
voir
et du coup
oui,
après quand on creuse on voit que derrière j'ai eu envie de mettre d'autres choses mais voilà c'est effectivement il y a ce côté comme là c'est pas un hasard si j'ai appelé cette expo avec de vrais morceaux de gens à l'intérieur c'est bien sûr en référence à toutes les pubs qu'on voit avec les yaourts avec plein de choses dedans et aussi ce côté ben voilà on devient nous-mêmes des éléments marchand.
En même temps, cette exposition qui en apparence est très, je dirais, joyeuse, qui a un appel à la chaleur, parce que c'est des couleurs qui sont très chaudes, enfin, etc. Ouais. Elle a quand même en filigrane un petit côté inquiet, parce qu'il y a une des toiles, celle qui d'ailleurs figure sur le carton d'invitation, qui est en référence à une peinture mélancolique au possible, qui est le cri de Edvard Munch.
Oui, oui, mais tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait...
C'est aussi un appel à l'aide, cette expo.
C'est un peu ça, c'est vrai que c'est, comment dire, l'artiste est toujours un peu un témoin de son temps, et c'est vrai que moi, voilà, je vis pas hors du monde, donc... Effectivement, j'ai cette pression, comme on l'a tous, tous les jours on a une nouvelle info sur les oiseaux qui disparaissent, sur le monde qui est pollué, sur le réchauffement climatique, sur... et du coup, bien sûr que j'ai ces angoisses-là aussi, et donc quand je parlais de chamanisme, voilà, j'ai l'impression d'être l'artiste qui est là en train de parler du monde et de notre monde qui est si beau, et d'en parler presque, pas au passé, mais presque, quoi, de me dire... On a la chance d'être là dans ce monde qui est merveilleux, d'être tous ensemble, de partager des moments et quelque part on assiste à l'écroulement de tout ça, quoi, une espèce de voilà de grand bordel. Et du coup oui, il y a le côté nostalgique et un peu violent dans cette expo aussi.
Vous cherchez à conserver un peu le merveilleux tout en sachant
mais
qu'il
voilà,
est menacé.
Mais voilà, c'est ça, voilà, ouais. Exactement. C'est un équilibre entre les deux, entre ce côté on va dire merveilleux et de l'émerveillement que j'éprouve à regarder le monde et en sachant qu'il y a un petit côté aussi, un petit pincement au cœur en me disant que ça ne durera pas toujours, mais ne serait-ce que parce que c'est notre lot humain à tous. Hein.
Changement de forme à la galerie Alma avec les peintures abstraites de Didier Demozet, mais toujours de la couleur à plein, de grands pans de bleus et de rouges sur fond blanc, tirant sur l'outre-mer ou le rouge cadmium pour une confrontation, physique et affective avec des tableaux de grand format. C'est la couleur qui découpe le blanc de la toile dans un équilibre précaire, avoue le peintre qui poursuit. Ma peinture ne se regarde pas comme un tableau terminé, fini, auquel il n'y a plus rien à ajouter, non, mais comme une peinture en train de se faire. J'avais eu l'occasion de rencontrer Didier Demozet lors d'une précédente exposition à la Galerie Alma en 2016. Né en 1950 dans le Calvados, Demozet vit et travaille à Draguignan. On écoutera des extraits de l'entretien avec l'artiste, au son, la voix de la chanteuse Nesrine Belmok lors d'un concert donné à Valence en Espagne en 2015. Je rappelle que l'exposition de l'artiste est visible à la Galerie Alma 5 rue du Plan du Palais jusqu'au 20 octobre.
Ça avance tout doucement chez moi, je veux dire, les choses, j'aime bien aller au bout de quelque chose, un petit peu, et puis à un moment donné, je sens que, bon, là, peut-être il n'y a plus rien à dire, ou peut-être ça me lasse un peu, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt rien à dire, parce que j'ai souvent des périodes comme ça, je veux dire, moi je travaille un peu par, il y a des moments, ça vient bien, je peux en faire quelques-unes de réussite, mais après, tac, il y a un peu le vide, moi j'ai besoin d'être... Et donc les choses avancent comme ça très très lentement, vraiment, vraiment lentement.
Il me semble que vous m'aviez même dit que parfois il vous arrive d'aller dans votre atelier assez tôt le matin, si je me souviens bien. Est-ce que c'est toujours cette procédure-là que vous adoptez?
Oui.
Voilà. Et que parfois, comme ça ne venait pas, ou que ça venait mal, pas dans le désir de ce que vous vouliez, vous arriviez même à détruire le travail.
Ah oui, 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 ça continue toujours. Hein. Ça, c'est... Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, quand je ne peux pas reprendre, ça m'arrive d'essayer au moins de récupérer les choses. Des fois, ça marche très bien, par hasard. Mm-hmm. Et puis, la plupart du temps, elles sont détruites, oui.
Ce sentiment de satisfaction, il vous est donné par le fait que vous avez inscrit les œuvres dans une série?
Non, il n'y a pas vraiment de série chez moi, je ne crois pas. C'est difficile à dire, ça. Je n'ai pas l'impression, moi, qu'il les fabrique.
En tout cas, elle n'est pas consciente, elle n'est pas volontaire.
Non, pas du tout, non. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on... En même temps, vous me faites réfléchir, là.
Mais c'est bien pour ça que nous nous entendons.
Donc, il y a peut-être un petit peu des peintures qui se suivent, voilà.
Qu'est-ce que c'est qui a arrêté, justement, la possibilité
de redémarrer?
La peur de
refaire la même chose, peut-être. Je ne voulais pas continuer exactement la même chose en me disant, tu vas te répéter, tu vas... Je ne suis pas un peintre qui travaille comme ça, donc...
En même temps, vous êtes dans une procédure qui est relativement austère, je veux dire, qui vous permet peu d'écart,
oui,
non?
Oui, oui, oui.
Il me semble...
Oui, mais voilà, c'est ça, c'est bouger les choses sans les bouger vraiment. Et puis, je ne suis pas un peintre théoricien du tout, mais là, vraiment pas du tout. Donc, les choses se passent, je ne sais pas comment.
Mm-hmm. Oui, là. Avec une part d'intuition, sans doute, et de ressenti très fort.
Oui,
enfin,
ça.
Si tant est qu'on puisse parler de ressenti au sens où on l'entend avec une dimension psychique, je dirais que c'est un ressenti dans lequel entre aussi bien une part de raison que d'émotion.
J'arrive pas à définir quand on me demande, dans des comme ça, comme vous, là, des fois on me dit « Pourquoi peignez-vous ?» Tout ça, j'ai absolument aucune réponse. Mm-hmm. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai fait, je vous ai expliqué la dernière fois, assez jeune. J'ai démarré très très jeune en me disant que c'était ça que je voulais faire, et ça continue. Il faut des conditions pour peindre. Pour moi, il me faut des conditions. D'abord, il ne faut pas de bruit autour de moi. Il faut que je sois bien en forme physiquement, curieusement. Ça joue beaucoup, je trouve. Et puis, je ne sais pas qu'on veut dire. Comme vous dites, il y a une sorte de ressenti. Il y a des moments, je me dis, c'est bon, là, tu y vas. Mm-hmm. C'est assez curieux parce que j'ai pratiquement, je sais pas moi, plus de 6 mois sans peindre, peut-être, un peu plus même. Et un matin, j'ai dit, je vais tendre des toiles. Et j'ai tendu des très grandes toiles, bien sûr, pas des petites, hein, des grandes. Mm-hmm. Et puis, quelques jours après, j'ai dit, allez, on y va. Comme ça, hein, on y va, mais je sentais qu'il fallait y aller. Et donc, c'est comme ça que ça s'est produit. Et c'était une peinture qui était relativement réussie, je dirais. Du coup, j'en enchaînais une autre et une autre. Et c'est comme ça que cette exposition-là est arrivée.
Il y a deux petites choses sur lesquelles j'ai envie de vous faire revenir. D'une part, là, vous venez de parler de grand format. Le choix d'un grand format, vous m'avez dit des grands formats, bien sûr. Et pourquoi, justement, des grands formats, bien sûr?
Parce que je crois que j'ai besoin de ce format-là. Je suis beaucoup... Pour moi, c'est tellement plus difficile de faire un petit tableau. Mais réellement, hein, je veux dire, les gens pensent que je dis des bêtises, mais c'est pour moi, c'est un grand format, c'est ma dimension hein, physique face au tableau.
C'est la dimension dans laquelle vous pouvez tendre vos bras.
Oui, peut-être même un peu plus grand, je dirais, mais pas, c'est jamais immense. Hein, je veux dire, ce sont des tableaux qui restent quand même à échelle humaine, à mon échelle, vraiment.
Mm-hmm. Et qui peuvent rendre compte de toutes les
tendues. Et je trouve que c'est là que ça marche le mieux, entre guillemets, quoi. Que, comme on dit souvent, ça tient bien, là.
Oui, oui, parce que le geste que vous allez pouvoir y projeter dessus...
Et dans les petits tableaux, ça devient des fois maniériste, parce qu'évidemment, le tableau est plus petit, donc...
On va aller davantage dans le détail.
Ouais, puis je fais des tableaux plus géométriques, et ça ne me plaît pas du tout. Parce que je ne me considère pas du tout comme un géométrique, les choses se font... le trait, c'est le coup de pinceau, je veux dire, si ça déborde trop, bon, c'est vrai que des fois, je...
Ça ne vous convient pas non plus de trop déborder.
Non, non, mais je veux dire déborder, j'entends, j'imagine, je commence une forme, je la mets dans ma tête, après, bon, c'est trop petit, j'en rajoute, vous voyez, etc. Ça passe comme ça, oui. Et je peins comme je peins, je veux dire, c'est-à-dire c'est une peinture, un geste un petit peu nerveux, comme ça, qui est assez rapide, donc voilà.
En même temps.
Mais c'est pas voulu. Je veux dire, je cherche pas à peindre comme ça. Je veux dire, ça c'est, enfin, je veux dire.
C'est votre mode d'être qui s'exprime là. Hein, c'est votre personnalité.
Parce qu'en plus, faut pas se rater là, le trait. Si jamais on part de travers là, peut-être faut tout recommencer.
Il y a un moment de décision important.
Oui,
hein,
oui. D'accord. Mais à chaque fois, c'est ça. La décision pour mettre la couleur, la décision pour mettre le trait, la décision pour mettre l'autre couleur. C'est, ça paraît rien, parce que les gens, moi j'ai eu énormément de critiques, hein, on me dit, mais ça, en une heure vous le faites, même pas. Mm-hmm. Et en fait, c'est tellement plus long.
Oui, oui, il y a une temporalité conséquente derrière, derrière la représentation que l'on a, finalement. Finale, on a le final, mais toute la temporalité qui est là, qui a présidé à l'élaboration,
c'est comme Pollock, assez conséquente. Hein, il peignait pas comme ça.
Extrait d'une bande sonore réalisée par le duo de The Blaze, le duo français de The Blaze, un morceau intitulé Places, et ce pour annoncer l'exposition de photographies de la japonaise Mami Kiyoshi, où la couleur est encore une fois en pleine forme, thème du devis de ce jour. L'exposition a lieu à la galerie Annie Gabrielli, 33 avenue de Nîmes, du 6 octobre au 1er décembre. On a déjà rencontré l'artiste il y a 2 ans. Mami Kiyoshi est née en 1974 au Japon et vit et travaille à Paris depuis 2010. Elle a exposé au Japon, en Chine et en Europe. Lauréat du prix SFR Jeune Polka, excusez-moi, et prix spécial du jury de la Bourse du Talent en 2012. Avec la série New Reading Portrait, elle expose à la Bibliothèque Nationale de France. Les visuels qu'elle y a présentés intègrent la série New Reading Portrait, pour laquelle Mami Kiyoshi travaille depuis 2003. Elles font partie d'un travail effectué dans le monde entier qu'elle compte poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Elle photographie chez elle ou à leur travail diverses personnes qui répondent à une annonce. L'exposition que Mami Kiyoshi va présenter à la Galerie Gabrielli du 6 octobre au 1er décembre s'intitule Wadako, histoire de poulpe volant. Il s'agit d'y faire figurer des portraits des derniers fabricants ainsi que de collectionneurs de cerfs-volants traditionnels du Japon. Le projet est présenté par la Société française pour l'art et la culture du Japon. Ce projet franco-japonais est né de la rencontre de deux personnes. D'un côté, Cécile Lally, française, docteur en histoire de l'art nippon, qui a séjourné et séjourne encore au Japon et travaille actuellement comme chercheure indépendante. De l'autre, Mami Kiyoshi, donc photographe plasticienne, qui réside en France depuis plusieurs années, comme je l'indiquais tout de suite. Alors, malgré la forte présence des cerfs-volants dans la mémoire collective japonaise depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les cerfs-volants n'attirent plus vraiment les enfants. Excusez-moi. Deux raisons sont à l'origine de cette baisse de popularité. D'une part, les enfants n'ont plus la place de les faire voler dans les rues des grandes villes. D'autre part, ils leur préfèrent des jouets industriels et high-tech qui semblent plus à la mode. Dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle, le nombre de fabricants professionnels a considérablement baissé, alors qu'au début du siècle dernier, il existait plusieurs centaines d'ateliers à travers tout le Japon. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une quinzaine. À l'heure actuelle, la plupart des fabricants sont relativement âgés et ils n'ont pas d'apprentis pour prendre la relève de leur atelier après leur mort. La grande majorité de ces derniers ateliers, dont les plus anciens existent depuis environ 200 ans, seraient donc donc condamnés à disparaître prochainement avec tout leur savoir-faire, raison pour laquelle l'exposition de Mamiki Yoshie, qui, je le rappelle, débutera donc en octobre à la galerie Annie Gabrielli, est particulièrement précieuse pour sa valeur documentaire mais aussi son esthétique. On écoutera l'entretien que l'artiste a bien voulu m'accorder au téléphone, mais pour l'instant place au duo The Blaze. Bonjour mamie.
Bonjour Lise.
Voilà, je vous interroge donc à propos de l'exposition que vous allez faire à la galerie Gabrielli. Elle s'appelle Wakado. Elle est en référence aux histoires de cerf-volant traditionnel japonais. C'est une exposition que vous réalisez avec Cécile Lally, qui est donc docteur spécialisée en histoire de l'art du Japon. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui constitue ces histoires de cerf-volant et pourquoi ce sujet vous a-t-il particulièrement intéressé?
D'accord. Alors, d'abord, merci d'avoir cette l'occasion pour expliquer sur mon projet. Alors, ça me fait plaisir.
Bien sûr.
Alors, d'abord, le titre, Wadako.
Oui.
D'abord, je vous explique sur le titre. Wadako, ça signifie cerf-volant japonais.
Oui.
Wa, ça signifie japonais. Et cerf-volant, ça signifie. Wadako, ça signifie cerf-volant.
Oui.
Alors, ce projet est une collaboration avec Cécile Lally.
Oui.
Qui est spécialiste de la culture japonaise.
Oui.
Que le cerf-volant, c'est son sujet.
Mm-hmm.
Alors. Maintenant, c'est la vie au Japon pour toute sa recherche. Donc, c'est Cécile qui m'a appris l'univers de cerf-volant japonais.
Oui.
Alors, donc, on a voyagé ensemble le 60 ans pour réaliser les portraits de fabricants et de collectionneurs de cerf-volant japonais.
Oui.
Donc, l'exposition est une première réception de ce projet. Cette cerf-volant japonais, c'est l'air traditionnel. Ils sont des bambous artisanaux construits avec des papiers japon et des bambous. Culture de cerf-volant n'est pas à la mode au Japon.
Oui.
C'est quelque chose de old school. Donc Cécile, quand Cécile m'a proposé, et c'était pour grâce, je ne connaissais pas d'eux. Donc petit à petit, le monde de cerf-volant, c'est vraiment riche. Et il y a plein de variétés.
Oui.
Alors, le cerf-volant japonais est normalement fait déjà avec des peintures.
Oui.
Souvent, il y a des dessins de visage.
Est-ce que vous avez joué avec des cerfs-volants, vous, dans votre enfance?
Ah oui, mon enfant, oui, bien sûr.
De Visu se termine aujourd'hui et j'espère que la couleur en pleine forme qui en était le thème vous donnera aussi des forces pour aller voir les expositions que nous avons présentées et qui vont avoir lieu prochainement. Votre émission bimensuelle consacrée aux arts plastiques animée par Lise Haute était accompagnée à la technique par Stéphane Marin. Je rappelle que vous pouvez toujours podcaster l'émission sur notre site de radio FM+ en toutes lettres. Org. Au revoir à toutes et à tous et restez bien sûr à l'écoute de FM+, nos programmes continuent.